Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Radio Campus 88.3, vous écoutez la Rédac Pop en compagnie de Daniel et Mathias. Cette émission est la deuxième partie d'une série d'émissions consacrées aux manifestations qui ont eu lieu à Orléans le 18 octobre dernier, où plusieurs milliers de salariés sont venus exprimer leur ras-le-bol. Alors des salariés, bien évidemment, mais il y avait également des chômeurs, il y avait des retraités, il y avait des syndicats et des partis politiques que vous avez largement entendus dans la première partie de cette émission. On va revenir avec Mathias sur plusieurs interviews, notamment celle d'un syndicat, la Fédération syndicale unitaire. C'est bien ça, Mathias ?
Oui, exactement, la Fédération syndicale unitaire.
Voilà, la FSU que tu as interviewée. Ouais. Et on va également écouter le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma. Et puis ensuite, dans la foulée, vous entendrez plusieurs témoignages de professeurs qui s'indignent de cette réforme injuste annoncée pour les lycées professionnels. Injuste car elle laissera beaucoup plus de temps de stage aux jeunes pour leur laisser moins de temps d'apprentissage. Donc des différentes matières qui composent le programme des élèves en lycée professionnel. Et puis le lycée professionnel aussi, qui est un espace où les jeunes peuvent trouver une orientation, car vous l'entendrez dans ce reportage, l'apprentissage en CFA ne suffit pas. Beaucoup de jeunes ne terminent pas leur apprentissage. Voilà, on écoute ça tout de suite maintenant. Donc dans une première partie, on va faire le lien avec la précédente émission où vous entendrez donc deux personnes témoigner au nom donc de leur syndicat. Et puis on enchaînera avec les professeurs des lycées professionnels Gauthier Bresca et Gauguin.
Bonjour, alors bonjour. On est mardi 18 octobre, donc c'est la manifestation contre la hausse des prix. De quelle organisation faisiez-vous partie ?
La FSU.
Alors à quoi consiste la FSU ?
La FSU, c'est une fédération des différents syndicats, des services publics, et notamment principalement dans l'éducation, formation, la recherche, mais aussi chez les territoriaux, la culture, voilà, principalement dans les services de la fonction publique.
D'accord. La manifestation d'aujourd'hui porte tout principalement sur la hausse des prix et on parle beaucoup de grève générale dans les entreprises. Est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent dans des entreprises en galère ou...
Alors, plus principalement, ça correspond à une manifestation pour la demande de la hausse des salaires par rapport à la hausse des prix, mais la hausse des salaires et surtout contre les réquisitions de grévistes dans les dépôts. Donc la FSU, en tant que fédération, principalement dans la fonction publique, réclame une hausse des salaires comme tous les salariés de ce pays. Il y a eu 3,5% d'augmentation du point d'indice. C'est complètement dérisoire par rapport à la perte de pouvoir d'achat et par rapport à l'inflation galopante et la hausse des prix de l'énergie qui s'annonce. Donc la FSU est dans la rue avec ses services publics pour réclamer une hausse des salaires dans la fonction publique, mais aussi pour tous les salariés de ce pays.
Et donc, est-ce que vous voyez la grève se généraliser ? Est-ce que vous pensez qu'elle va se généraliser dans d'autres entreprises, par exemple ?
On ne sait pas. Pour l'instant, c'est une première salve, une deuxième, on va dire, après le 29 septembre, mais qui s'est déclinée très rapidement parce que des manifestations de mécontentement sont là dans les raffineries, dans différentes entreprises. C'est possible que ce soit le début d'une grosse mobilisation. On l'espère que ça grossit, parce qu'il y en a un peu ras-le-bol dans ce pays de rémunérer les dividendes des gros actionnaires et de ne pas rehausser les salaires de tous les salariés qui bossent pour ce pays, qui triment, qui transpirent. Voilà, c'est la raison de notre présence encore ici. On espère que, effectivement, le mécontentement va grossir parce que tout le monde a quelque chose à dire de ce côté-là.
Et une dernière question par rapport à la FSU, parce que moi je ne connais pas très bien. Du coup, est-ce que, en quelque sorte, vous représentez l'entreprise publique, la sphère publique en fait des entreprises?
Oui, on va dire que c'est ça. On n'est pas présent dans la fonction publique hospitalière, mais on est présent dans les deux autres fonctions publiques, hein, territoriales et principalement dans l'éducation, mais aussi dans le supérieur. Hein. Vous qui êtes à Radio Campus, il y a le syndicat de l'enseignement supérieur, le SNESUP, qui est présent à l'université, et le SNASUB des administratifs. Donc on représente principalement effectivement les services publics et la fonction publique.
Et du coup, quelles sont les revendications des fonctionnaires en ce moment?
On l'a dit, 3,5% d'augmentation du point d'indice, c'est largement insuffisant. La FSU demande à minima une augmentation de 10% du point d'indice parce qu'il y a eu des pertes de pouvoir d'achat depuis 20 ans. Pour certains 20, pour certains 10, tout dépend quand ils sont rentrés dans la fonction publique. Et au regard de l'inflation, et nos revendications sont celles-ci. Mais on est... Au-delà de ça, la FSU a aussi des revendications sociétales en fait. Et on défend la fonction publique, les services publics pour tous les usagers et de manière générale tous les salariés de ce pays.
Et les pensions aussi, et les pensions de retraite. Parce qu'on on insiste beaucoup sur le lien entre la retraite, qui était une continuation du salaire d'une façon ou d'une autre, et donc qui est lié au salaire, et on demande l'indexation des retraites sur les salaires moyens.
D'accord, donc vous êtes à la FSU aussi. J'avais une dernière question aussi. Okay. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, mardi 18 octobre, c'est aussi une révolte aussi contre l'indécence des richesses
C'est lié.
C'est lié.
C'est lié. Enfin, quand on voit qu'on ne peut pas augmenter les salaires alors que le CAC 40 multiplie par 10 ses profits, il y a un problème.
Bon, merci beaucoup la FSU. Bonne journée à vous.
Merci.
Au revoir.
Le lycée Gauguin est présent à la manifestation de ce mardi 18 octobre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Oui, c'est une réaction par rapport à la réforme de la voie professionnelle qui est en cours, puisque officiellement elle est en construction, c'est les termes qu'on utilise. Mais les premières pistes ne sont pas du tout bonnes selon nous, parce que ce qui est à peu près sûr, c'est que les périodes de stage augmenteraient pour nos élèves. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces périodes de stage, elles se font en plus des périodes de cours. Si on augmente les périodes de stage, ça veut dire qu'on va réduire les périodes de cours. Bon, nos élèves, ils ont besoin de ces cours qu'on peut appeler des cours théoriques ou qu'on peut aussi appeler des TP faits au lycée. Il ne faut surtout pas les réduire parce que ça a déjà été fait deux fois sur ces 12 dernières années. Et là, on est vraiment, on a une expression qui dit on est sur l'os, mais là, ça fait longtemps qu'on est au-delà de l'os. Donc on n'a pas envie pour eux ni pour nous, parce qu'il y aurait potentiellement des suppressions de postes, que ces heures soient réduites. Voilà. Au-delà de ça, la volonté de la réforme, si on a bien compris, ce serait de promouvoir plus d'apprentissage. Alors on n'a rien contre l'apprentissage en tant que tel, mais à l'heure actuelle, il y a des élèves qui sont en apprentissage qui en fait ne finissent pas leur formation, ne finissent pas leur apprentissage pour des raisons variables, mais on est loin du 100% en taux de réussite, on va dire. Donc ça indiquerait qu'il y a des élèves qui sont tout simplement pas faits ou pas prêts pour ça, et ces élèves, une partie d'entre eux, aujourd'hui ils sont chez nous. Donc si on réduit nos heures, si on réduit nos élèves, en espérant que le CFA va absorber la différence, on se trompe. Aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité de toute façon d'absorber tous nos élèves, ça c'est sûr. Mais de toute façon, comme je disais juste avant, en termes de maturité, de capacité, de positionnement, à l'heure actuelle déjà, une partie des jeunes qui sont en CFA ne finissent pas leur contrat. Hein. C'est assez peu connu, c'est assez peu communiqué, mais c'est la réalité. Voilà. Donc nous, on voudrait que le lycée pro reste à peu près comme il est. Il a assez souffert comme ça. Et on ne veut pas de ce langage... à nos yeux partisans, qui va faire une voie royale qui n'existe pas, donc la formation en apprentissage, qui ne correspond pas à tous nos jeunes. Et on pense qu'il faut qu'ils continuent à avoir le choix, tout simplement. Voilà.
Alors moi, c'est Saint-Evan Boifa et je suis autoréalisateur.
Alors pourquoi vous manifestez aujourd'hui?
C'est une bonne question. Parce que... moi, dans mon secteur, les salaires, ils n'ont pas été revalorisés depuis un certain temps. On a calculé qu'on avait perdu déjà 15% de pouvoir d'achat, en fait, dans les métiers de l'audiovisuel, en moyenne. Déjà, il y a ça. Et après, c'est aussi pour ma part, c'est aussi une revendication générale sur en interprofessionnel et même au niveau national sur les retraites, la réforme du chômage et la non-prise en compte de l'inflation par l'État, quoi, tout simplement.
Et est-ce que vous pensez justement que la culture est mise à mal
Ah là, la culture, elle est mise à mal à fond, surtout bah, nous deux là, on est dans les métiers du cinéma et d'audiovisuel. Et déjà avec la suppression de la taxe audiovisuelle, bah, ça c'est un premier coup en fait. Ça veut dire que le monde de l'audiovisuel français ne saura jamais d'une année sur l'autre quel sera son budget. Et déjà, ça porte un coup. Et si l'État veut, il peut diminuer de moitié d'une année sur l'autre. Et c'est plein de projets et de techniciens qui vont ne pas pouvoir être payés, etc. Quoi. Déjà, ça, c'est un premier truc. Et voilà, quoi. Après, il y a des prochaines réformes qui vont être faites. J'imagine qu'ils ne vont pas hésiter à supprimer la taxe à la billetterie du CNC, parce que le CNC il finance aussi la plupart des créations cinéma en France grâce à la billetterie. Et s'il supprime ça, c'est-à-dire que ce sera aussi le gouvernement qui décidera du budget qui sera alloué à la création cinématographique en France, par exemple.
Alors, je m'appelle Amandine et je suis professeure de lycée professionnel. Voilà.
Et vous avez une pancarte qui représente le cercueil de la culture au lycée professionnel. Expliquez-moi.
Oui, puisque actuellement, nous avons entendu des annonces assez inquiétantes de la part du président. Et ça reste très flou, mais on préfère prendre les devants. Et en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que les élèves des classes populaires qui ont déjà peu accès à la culture en temps normal, se retrouvent à servir uniquement de main-d'œuvre pas chère au patron, et que le rôle de l'école, qui est d'être émancipatrice, ne soit plus du tout le cas.
Alors, c'est quoi ces annonces dont vous parlez ?
Alors, actuellement, ce qui est à peu près sûr, ce serait une augmentation des stages de 50%. Donc ça veut dire que les collègues d'enseignement professionnel formeraient moins les élèves, et le président pense que les patrons et les tuteurs, les maîtres de stage, peuvent en fait remplacer les collègues d'enseignement professionnel.
Et concernant la culture, justement, dont vous annoncez la mort sur votre pancarte, expliquez-moi, quelles sont les actions culturelles qui sont mises en place aujourd'hui, les actions d'éducation à la culture auprès des élèves ?
Alors, ça concerne, donc c'est la culture générale. Déjà, les collègues d'enseignement en lettres histoire ont perdu quasiment 50% de leur enseignement. Moi, je suis enseignante en art appliqué. Et ça peut concerner aussi l'éducation physique. On a une discipline aussi en lycée pro qui s'appelle la PSE, donc c'est la prévention santé et environnement, qui par exemple va apprendre aux élèves à décoder des articles du code du travail, ou voilà, leurs droits en tant que travailleurs. Donc tout ça, ça risque de passer à la trappe.
Donc en fait, vous êtes très vigilante justement quant au devenir de ces jeunes.
Alors il y a le devenir des jeunes, et puis il y a aussi le fait que certaines disciplines risquent carrément d'être supprimées. Donc des milliers de postes seraient... voilà, qu'est-ce qu'on va devenir ? Et puis donc il y a d'un côté les élèves, et puis d'un côté les collègues. C'est très flou, mais ça nous inquiète. Voilà.
Alors là, vous dénoncez justement la situation des élèves qui subissent déjà la crise climatique, la crise sociale, enfin la crise environnementale, la crise sociale, sans parler aussi après de toutes ces crises sanitaires, etc. La jeunesse sur laquelle on a l'impression qu'il y a énormément de pression. Est-ce que vous pensez que la jeunesse en elle-même, avec toutes les perspectives d'espoir qu'elle représente pour l'avenir, est suffisamment prise en compte dans la politique du gouvernement ?
Non, pas du tout. Et puis le fait de leur enlever de l'enseignement général, c'est aussi Leur éviter de se poser trop de questions et puis surtout de pas trop se rebeller ou de remettre les choses en cause. Donc voilà, c'est vraiment, ça va être métro, boulot, dodo et puis réfléchis pas trop. Quoi. Mmh.
Et on n'en voit pas beaucoup de jeunes aujourd'hui, comment vous l'expliqueriez
C'est une bonne question. Alors nous, pour notre part, le lycée professionnel, on a une deuxième manifestation cet après-midi. Après, je sais pas si les élèves se mobiliseront, ce sera la surprise.
Vous pensez qu'ils ont peur de la répression? Elle a été assez violente quand même envers les jeunes ces dernières années.
Oui, oui, bien sûr. Bah, en 2018, moi j'ai des élèves qui se sont fait gazer. Voilà. Et il y a des élèves qui ont perdu des yeux. Alors après, est-ce qu'ils sont au courant de tout ça? Je sais pas. Mais en tout cas, dans les lycées professionnels, oui, les élèves ont peur de la répression policière.
Mmh. Et donc, vous craignez en fait que ces jeunes deviennent de la main-d'œuvre corvéable à merci et gratuite pour les entreprises en augmentant justement leur période de stage dans les entreprises?
En tout cas, de la main-d'œuvre pas chère, ça c'est sûr. Et puis, qu'on ne prend pas forcément le temps de former. Voilà, d'où notre présence aujourd'hui.
Je suis en face de la banderole lycée Gauthier-Bresca en colère. Pourquoi est-ce que le lycée Gauthier-Bresca, le lycée d'enseignement professionnel de Saint-Jean-de-Bray, est-il en colère?
Parce qu'on est résolument contre la réforme des lycées professionnels, hein, parce que elle va entraîner une véritable catastrophe pour toute une partie de la jeunesse et également pour tous ceux qui y travaillent.
Mmh. Alors, c'est quoi cette réforme?
Alors, cette réforme, elle vise à augmenter la mainmise des entreprises sur l'enseignement professionnel. C'est-à-dire que, par exemple, le temps de stage en entreprise va augmenter de 50%. Il est actuellement de 22 semaines, il va sur 3 ans pour les bacs pro, il va passer à 33 semaines. Et il va mettre à disposition des patrons une main-d'œuvre gratuite à terme. Bon, ça, c'est un des effets. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui vont entraîner une dégradation. Hein. Par exemple, il y a l'autonomie des établissements va permettre que chaque établissement pourra décider comme il le veut de beaucoup de choses.
D'accord. Et puis, au-delà de la situation des lycées professionnels, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont fait descendre dans la rue en ce mardi?
Ben oui, aujourd'hui, on a choisi de rejoindre la manifestation interprofessionnelle pour les salaires. Nous étions déjà mobilisés le 29 septembre dernier pour les salaires. Les salaires sont complètement à la traîne. Hein. Il manque des centaines et des centaines d'euros sur nos salaires, surtout en ce moment avec les prix qui augmentent. Donc il est urgent de les augmenter massivement, tous les salaires, et aussi de les indexer sur la hausse des prix. Parce que si on a une augmentation aujourd'hui et que dès demain elle est dépassée par l'inflation, eh ben ça ne suffit pas. Donc il faut vraiment que les salaires suivent les prix.
Mmh. Est-ce que vous avez été témoin de précarité?
Oui, on est témoin parce qu'elle se développe de plus en plus. On le constate, y compris dans notre établissement. À cette rentrée, il y avait un certain nombre de collègues en situation de précarité, avec notamment des salaires très bas.
Et ça se traduit comment? Cette précarité, elle est alimentaire, elle est énergétique?
Avec les salaires insuffisants, elle arrive à être alimentaire, bien sûr. Hein. Mmh. Après, les collègues savent au tout dernier moment qu'ils auront un poste. Donc, c'est l'angoisse au quotidien. Des collègues peuvent être envoyés dans 2-3 établissements différents aux quatre coins du département. C'est un autre aspect aussi de la précarité.
Le lycée Gauguin est présent à la manifestation de ce mardi 18 octobre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Oui, c'est une réaction par rapport à la réforme de la voie professionnelle qui est en cours, puisque officiellement elle est en construction, c'est les termes qu'on utilise. Mais les premières pistes ne sont pas du tout bonnes selon nous, parce que ce qui est à peu près sûr, c'est que les périodes de stage augmenteraient pour nos élèves. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces périodes de stage, elles se font... En plus des périodes de cours, si on augmente les périodes de stage, ça veut dire qu'on va réduire les périodes de cours. Bon, nos élèves, ils ont besoin de ces cours qu'on peut appeler des cours théoriques ou qu'on peut aussi appeler des TP faits au lycée. Il ne faut surtout pas les réduire parce que ça a déjà été fait deux fois sur ces 12 dernières années. Et là, on est vraiment, on a une expression qui dit on est sur l'os, mais là, ça fait longtemps qu'on est au-delà de l'os. Donc on n'a pas envie pour eux ni pour nous, parce qu'il y aurait potentiellement des suppressions de postes. que ces heures soient réduites. Voilà. Mmh. Au-delà de ça, la volonté de la réforme, si on a bien compris, ce serait de promouvoir plus d'apprentissage. Alors, on n'a rien contre l'apprentissage en tant que tel, mais à l'heure actuelle, il y a des élèves qui sont en apprentissage qui, en fait, ne finissent pas leur formation, ne finissent pas leur apprentissage pour des raisons variables, mais on est loin du 100% en taux de réussite, on va dire. Donc ça indiquerait qu'il y a des élèves qui sont tout simplement pas faits ou pas prêts pour ça, et ces élèves, une partie d'entre eux, ben aujourd'hui ils sont chez nous. Donc si on réduit nos heures, si on réduit nos élèves, en espérant que le CFA va absorber la différence, on se trompe. Aujourd'hui ils n'ont pas la capacité de toute façon d'absorber tous nos élèves, ça c'est sûr, mais de toute façon, comme je disais juste avant, en termes de maturité, de capacité, de positionnement, à l'heure actuelle déjà, une partie des jeunes qui sont en CFA ne finissent pas leur contrat. Hein. C'est assez peu connu, c'est assez peu communiqué, mais c'est la réalité. Voilà. Donc nous, on voudrait que le lycée pro reste à peu près comme il est. Il a assez souffert comme ça. Et on ne veut pas de ce langage, à nos yeux, partisan, qui va faire une voie royale qui n'existe pas, donc la formation en apprentissage, qui ne correspond pas à tous nos jeunes. Et on pense qu'il faut qu'ils continuent à avoir le choix, tout simplement. Voilà.
Quel syndicat représentez-vous ?
Bonjour, alors moi je ne suis pas syndiqué, je suis enseignant dans un lycée pro et technologique et je suis dans la rue donc contre la réforme du lycée professionnel.
Et qu'est-ce qui se passe du coup avec les lycées professionnels ici ?
Alors en fait, le principe de cette réforme, c'est d'augmenter le nombre de semaines de stage. Et en fait, déjà en lycée professionnel, on a, à mon avis, des élèves qui n'ont pas assez d'enseignement général. Puisqu'en fait, l'idée de la réforme, c'est de fabriquer des élèves, fabriquer c'est vraiment le mot, qui soient le plus adaptés à la demande des entreprises. Et en fait, je pense qu'il faut retenir que l'éducation nationale, c'est pas seulement de la formation, c'est pas que préparer des élèves à un emploi, c'est aussi les préparer à être des citoyens. Donc à réfléchir, à être curieux, à développer tout ce qu'on pouvait appeler avant les humanités. Et donc l'idée là, c'est que si jamais on va augmenter le nombre de stages, il y aura moins d'enseignement général et on aura des élèves qui seront encore beaucoup plus privés de culture générale.
D'accord, donc trop de pratique et pas assez de théorie du coup.
C'est même pas de la pratique puisque c'est en entreprise, donc c'est surtout faire croire qu'on peut tout apprendre en entreprise alors que non. L'école est nécessaire et indispensable et c'est ça qui a créé le ciment de la société française et de la République.
Donc faire croire qu'on travaille bien en entreprise, que c'est facile de travailler en entreprise par exemple ?
Oui et non, parce que c'est bien aussi l'entreprise, on n'est pas du tout contre l'entreprise et d'ailleurs on a aussi des formations par apprentissage. Il faut juste que ça soit fait de qualité, de manière qualitative et pas quantitative. Là les bacs pro ont déjà 22 semaines de stage sur 3 ans, c'est déjà beaucoup. Bon, en plus, des fois, on a souvent du mal à leur trouver des lieux de stage. Là, le projet veut rajouter au moins une dizaine de semaines de stage. Et donc, ça fait 10 semaines de moins d'enseignement général.
Et donc, du coup, vous êtes prof et vous militez pour vos élèves ou pour vous ?
Pour tout, pour mes élèves, pour moi aussi, pour que mon métier ait du sens. Et que je ne me retrouve pas simplement à exécuter des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord.
D'accord, je comprends. Merci beaucoup.
De rien, au revoir.
Au revoir.
Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Radio Campus Orléans 88.3, vous écoutez la Rédac Pop. Nous allons à présent écouter des témoignages d'éducateurs et de travailleurs sociaux qui sont elles et eux aussi atteints par la précarité. Et des fois, c'est le paradoxe justement des témoignages que vous allez entendre, puisque vous entendrez que ces témoignages mettent en lumière la précarité dont sont victimes les travailleurs sociaux, chargés très souvent de s'occuper de personnes en situation de précarité. C'est assez bizarre ça quand même, non ?
Oui, je crois qu'on va notamment entendre tout de suite les éducateurs dans le social qui sont dans la précarité. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que c'est tous et toutes des personnes qui ne sont pas syndiquées. Donc on écoute la voix du peuple du coup tout de suite sur Radio Campus 88.3.
Alors pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui ?
Eh bien, pour la revalorisation des salaires, premièrement, et puis en soutien aussi des grévistes et pour s'opposer aux graves atteintes aux droits syndicaux et aux droits de grève.
Vous travaillez dans quel secteur ?
Le médico-social. Je suis moniteur éducateur dans le médico-social.
D'accord. Alors, on n'a pas vu beaucoup de... Alors, il y en a évidemment des moniteurs éducateurs, mais on n'entend pas souvent dans les médias, justement, les problèmes qui existent dans le travail social.
Oui, alors, effectivement, beaucoup de problèmes dans le social et dans le médico-social. Là encore, dans notre secteur, une inéquité de traitement avec la Laforcade et le Ségur qui n'est pas alloué à tous les professionnels et à toutes les catégories.
Alors, expliquez pour nos auditeurs, auditrices, Laforcade, c'est quoi ?
Alors, Laforcade, c'est ce qui a été négocié pour revaloriser les salaires, donc qui se rajoute au salaire de base. Et ça, le gouvernement donne des miettes petit à petit à certaines catégories professionnelles. Et là, pour autant, on n'a toujours pas toutes les catégories professionnelles. Exemple, les administratifs, les services généraux de nos secteurs qui ne sont pas concernés par cette prime, alors que souvent, malheureusement, ce sont les plus bas salaires. Et qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit le coût de la vie et puis le pouvoir d'achat qui diminue comme peau de chagrin, je pense que de revaloriser les salaires pour nos secteurs, mais pour l'ensemble des secteurs, ça me paraît une priorité et nécessaire.
Le travail social n'est plus très attractif, enfin le social et la santé ne sont plus très attractifs aujourd'hui pour les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, c'est vrai que ce n'est plus très attractif. D'ailleurs, nous dans nos secteurs, on a pratiquement 30% de postes non pourvus, ce qui devient une catastrophe pour travailler et accompagner les personnes sur le terrain. Alors, c'est plus attractif, mais il faut peut-être s'interroger aussi sur toutes les politiques qui ont été menées au niveau des départements, au niveau du gouvernement depuis des décennies. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas voulu revaloriser nos salaires. On nous a gelé les salaires de notre secteur. Et maintenant qu'on est dans l'urgence et qu'on manque de professionnels, on nous jette un peu quelques miettes comme ça avec la prime, comme la Laforcade ou la Ségur. Mais les gens se sont reconvertis, les gens sont partis. On a trop d'investissements personnels, on a trop de dans nos métiers, trop de contraintes par rapport au peu qu'on est reconnu et professionnellement et au niveau des salaires aussi.
Alors cette politique dont vous parlez, que le gouvernement a appliquée depuis des décennies envers les travailleurs sociaux, vous pouvez m'en parler ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà eu la casse du service public et de l'hôpital, où on a beaucoup fait partir sur le privé lucratif. Tout ce qui est accompagnement social de l'enfance, même nous, au niveau du conseil départemental du Loiret, il y a eu une casse de la protection de l'enfance, où on ferme les établissements, où on a licencié du personnel. Il y a vraiment eu un choix politique pour faire des économies. Et au jour d'aujourd'hui, on voit bien que pour autant, les personnes sont toujours là et ont besoin d'être accompagnées. On n'a plus les professionnels derrière pour le faire.
Et vous pensez que ces personnes connaissent la précarité ? Est-ce que vous la voyez augmenter, cette précarité ?
Alors, les personnes accompagnées ou les salariés du secteur ?
Les personnes accompagnées.
Les personnes accompagnées, oui, il y a une grande précarité aussi. Hein. Et alors là, encore plus avec toute la nouvelle réforme de l'inclusif, où on va un petit peu laisser dans la nature toutes nos personnes adultes, majeures, en situation de handicap, sur du marché lucratif, parce qu'on va pouvoir avoir affaire à des promoteurs immobiliers qui vont investir pour percevoir des loyers de ces personnes handicapées sans pour autant avoir derrière l'accompagnement éducatif des éducateurs, des psychologues, enfin des équipes pluriprofessionnelles de terrain qui pouvaient les aider dans leurs difficultés, dans leur vie quotidienne.
D'accord. Et il s'agit des fameux DAME, c'est ça ?
Alors les DAME, là c'est plus mon collègue qui maîtrise plus les DAME. Les DAME.
Là, ce dispositif dont vous me parlez, ça s'appelle comment ?
Le dispositif de l'inclusion, là.
Ah. Le dispositif de l'inclusion, écoutez, c'est un bon dispositif à la base, sauf que nos financeurs sont en train de mettre en place toute une procédure qui met à mal les ensembles des services éducatifs, les éducateurs, les AMP, les assistants sociaux, les CESF ne savent plus exactement se positionner finalement par rapport à ce dispositif. Au départ, c'est très louable pour les usagers qu'on accompagne. Sauf que les moyens à côté sont au rabais, en fait. On va mettre ces gens en appartement seuls, sans accompagnement. C'est pas très valorisant, c'est pas très gratifiant. Et ça peut être même maltraitant vis-à-vis des usagers si c'est fait n'importe comment.
Beaucoup. Donc, c'est des économies de personnel au final.
Ah oui, oui, c'est de l'économie de personnel. C'est dommage parce que le dispositif inclusif, il faut être plutôt pour, dans le sens où ça se fait de manière intelligente et de manière concertée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc là, on est une fois de plus en train de dire à ces personnes, apprenez à vous passer de nous.
Oui, on leur demande. On demande à des personnes en situation de handicap ou même en difficulté, tout simplement, d'être aussi performants, voire mieux que monsieur et madame tout le monde. Moi, personnellement, je trouve ça un peu injuste, hein, évidemment.
Méprisant même, au final.
Oui, oui, c'est méprisant. Bah, méprisant et encore une fois maltraitant. Dommage.
Et on entend peu parler dans les médias, justement, de toutes ces problématiques liées au travail social. À part, là, on a l'impression qu'il y a eu un reportage dimanche soir et le gouvernement s'est réveillé lundi matin parce qu'il y avait eu un reportage. Mais cette précarité, elle existe depuis des années et elle ne touche pas seulement l'aide sociale à l'enfance, hein, bien évidemment.
Ah, l'aide sociale à l'enfance, c'est la cinquième roue du carrosse. Les professionnels qui travaillent sont plutôt courageux, je trouve, parce qu'ils ne sont pas du tout encadrés. En fait, ils n'ont aucun moyen d'élaboration vis-à-vis de leur travail. Ils ne sont pas aidés. Il n'y a pas d'assistants sociaux vraiment qui sont formés sur un cadre législatif, mais pour l'accompagnement des personnes, des gens carencés affectivement ou déficients. Il faut du bon personnel, du personnel pour accompagner le quotidien, mais aussi pour accompagner ces personnels au quotidien. Des psychologues, parce qu'en effet, il y en a besoin. Des personnes qui sont chargées un peu, ben, tout simplement, d'encadrer ces équipes de professionnels pour éviter les déviances, en effet, et puis pour protéger et les salariés et également les usagers. Pourquoi on n'en entend pas parler ? Ben, parce que, justement, nos collègues font bien leur travail. Ça veut dire qu'en fait, on est des bons agents parce que ben, les gens qu'on accompagne, finalement, ne posent pas trop de problèmes. On ne les voit pas dans la rue en train de faire n'importe quoi ou n'importe comment. Très peu. C'est dommage. Tant mieux pour les gens avec qui on travaille. Ça veut dire que nous, les professionnels, on fait bien notre travail. Ensuite, bah, ça veut dire qu'en effet, on est un petit peu transparent, puisque de fait, on fait en sorte que les choses se passent bien.
Ce qui est paradoxal, c'est que les travailleurs sociaux commencent à eux-mêmes être des personnes en situation de précarité.
La précarité, j'en discutais pas plus tard que la semaine dernière avec mon collègue qui est surveillant de nuit en institution, parce que les institutions existent encore par endroits. Ce monsieur gagne moins aujourd'hui qu'une personne que nous accompagnons en situation de handicap, qui bénéficie, à titre normal d'ailleurs, d'une allocation adulte handicapé, d'une rétribution en ESAT, et qui bénéficie également de la prime pour l'emploi, puisque c'est un monsieur courageux qui travaille, de fait. Ce monsieur gagne plus.
Je m'appelle Ginette, je suis travailleur social à la ville d'Orléans.
Alors pourquoi vous manifestez aujourd'hui ?
Ben, tout simplement parce que les travailleurs sociaux sont présents tout le temps pour l'intérêt du public, qu'il existe une prime Ségur et que cette prime Ségur, les travailleurs sociaux du CCAS, dans la globalité des travailleurs sociaux, méritent cette prime et que malgré les lois, etc., ben, on attend toujours et que non seulement on est un métier en tension et qui est important pour la population. Et malgré tout, ben, on n'a pas de valorisation de notre travail. Cette prime Ségur pourrait permettre justement une petite revalorisation de notre travail et une attractivité de nos métiers.
Ça veut dire que les travailleurs sociaux connaissent eux aussi la précarité ?
On peut dire ça, effectivement. On accompagne des gens en précarité, mais on n'est pas bien lotis non plus. Mais on est toujours là pour tout le monde.
Et concernant la précarité des publics que vous accompagnez, est-ce que vous pourriez m'en parler ?
Nous au CCAS, en tout cas dans notre service, on accompagne principalement des personnes bénéficiaires du RSA, des personnes très précaires. Hein. Je dirais que c'est les invisibles un peu de la société, ou en tout cas c'est des publics qu'on stigmatise beaucoup et qui rencontrent d'énormes difficultés sur le logement, sur l'emploi, sur la santé. Et on parle souvent d'eux de façon négative, alors que c'est un public riche et ben, faute de moyens. C'est vrai que ça reste difficile pour tout ce qui est insertion sociale et professionnelle de ces publics-là.
Qui c'est qui en parle de manière négative ?
Je pense que les médias, notamment, en parlent de manière négative. Quand on parle de ces publics-là, c'est souvent pour les comparer à... comment dire ça ? On va leur dire souvent, voilà, ils ne payent pas le logement, ils ont des avantages. Moi, je pense que le système, de façon générale, voilà, stigmatise ces gens-là. Je pense que malgré tous les avantages que les gens pensent que ces publics-là ont, il y a peu de gens qui seraient prêts à troquer leur statut contre le leur. Et je trouve dommage. Plutôt que de stigmatiser ces publics-là, stigmatisons plutôt les actionnaires qui s'en mettent plein les poches, hein, les cadres parfois qui ont beaucoup plus de ressources que ceux qui sont sur le terrain. Voilà, ça reste mon point de vue. Mais...
Le travail social est peu médiatisé. Je pense que beaucoup de Français et Françaises méconnaissent l'étendue des secteurs dans lesquels vous intervenez. Donc là, vous expliquez, vous travaillez pour un CCAS, mais est-ce que vous avez des collègues dans d'autres secteurs aussi qui connaissent la précarité du travail social ?
Tout à fait. Le travail social, en fait, on le retrouve partout. On le retrouve au CCAS, dans les associations qui œuvrent pour l'insertion par le logement, dans la prévention pour les enfants, dans les hôpitaux, il y a des travailleurs sociaux. À l'UDAF, il y a des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, en fait, sont partout, mais invisibles. Et je pense qu'on méconnaît réellement notre métier et toutes les pressions qu'on subit par les institutions, les résultats demandés, tout ça. Alors que nous, le sens même de notre métier, c'est d'accompagner les personnes, d'être avec les gens. On travaille avec de l'humain, pas avec... Voilà, il faut humaniser un petit peu tout ça. Et les gens, quand on en parle dans les médias, je pense qu'ils oublient tout ça.
Alors, que ce soit la santé ou le social, ce sont deux secteurs qui ne sont plus très attractifs pour les jeunes aujourd'hui. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent accéder à ces métiers. Comment vous l'expliqueriez ?
Déjà, c'est des métiers qui sont peu attractifs en termes de rémunération. Je dirais qu'on n'est pas très... Oui, on n'est pas attractif. C'est des métiers difficiles. On réceptionne la souffrance, la difficulté des gens. On a peu de moyens en face. Des dispositifs qui sont saturés. Des moyens qui sont très, très limités. Et je pense que ça fait partie de nos difficultés pour le recrutement. Et voilà, la prime Ségur, ça a été voté. Hein, on attend des décrets d'application là actuellement. Mais voilà, il y a déjà des services qui ont eu cette prime Ségur. Dans les textes, on pourrait y avoir droit. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment un effort de la part de toutes les associations, toutes les collectivités pour vraiment valoriser notre travail. Et ça passe aussi par la rémunération.
Il y a eu beaucoup de clivages justement sur l'attribution de cette prime Ségur entre celles et ceux qui avaient droit, celles et ceux qui n'y avaient pas droit. Et aujourd'hui encore, hein, parce que ça fait plus de 2 ans maintenant qu'elle a été mise en place, qu'est-ce que vous en pensez de ces clivages qui ont été mis en place sur l'attribution de cette prime à celles et ceux qui le mériteraient ou non en fait au final ?
En fait, la loi elle est très restrictive, c'est-à-dire que il faut déjà appartenir à un cadre professionnel particulier. Il faut aussi exercer une mission à 50% de son temps sur un public particulier, dans des institutions particulières. Et je pense que concrètement, au quotidien, tous les travailleurs sociaux œuvrent pour la même cause et tous devraient en bénéficier. Je parle de travailleurs sociaux, mais il y a d'autres professions aussi qui peuvent y prétendre. Et ce clivage, je le trouve bien dommage parce que...
Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, en fait, tout simplement, augmenter les salaires ?
Alors ça, c'est l'idéal. Bien sûr qu'on œuvre pour ça. En tout cas, nous, au niveau du CCAS, on demande à la collectivité de donner la prime Ségur à ceux qui rentrent dans les textes et de pouvoir donner une compensation financière à ceux qui ne rentrent pas dans les textes, mais qui, de par leur fonction, leur métier, leur investissement au quotidien, méritent cette prime et doivent avoir cette prime-là. Et bien sûr qu'une augmentation de salaire, c'est l'idéal. L'augmentation du point d'indice, c'est sûr, c'est un chiffre comme ça, quand les gens entendent 3,5%, c'est beaucoup. Mais dans la réalité...
C'est moins que l'inflation, en tout cas.
En tout cas, c'est beaucoup moins que l'inflation, vous avez raison. Il y a beaucoup de mes collègues aussi qui font beaucoup de déplacements. Il y a le prix de l'essence, il y a tout ça. Donc bien sûr que l'augmentation de salaire, c'est l'idéal. Après, nous, dans la fonction publique, on est soumis justement aux grilles indiciaires, à ce point qui a été figé pendant longtemps. Rien n'empêche les associations, bien sûr, d'augmenter les travailleurs sociaux si elles le peuvent. Moi, je trouve que ça serait l'idéal. Et puis que l'État fasse un effort supplémentaire, ça ne serait pas du luxe.
Vous en pensez quoi de la manifestation ?
Elle est justifiée. Elle est justifiée à double titre. D'abord, à cause de la perte de pouvoir d'achat qu'on subit tous au quotidien, quel que soit notre secteur d'activité. Et puis, la remise en cause du droit de grève qui s'est passée chez Total avec la réquisition de salariés qui étaient grévistes. C'est juste inadmissible. Mais la principale préoccupation, c'est le pouvoir d'achat, en fait, dans un pays qui se dit un des pays les plus riches du monde, quand même. Voir autant de gens dans la misère, c'est juste inadmissible et scandaleux.
Alors, en venant dans cette manifestation, on apprend, parce que je l'apprends ici, j'étais pas trop au courant, qu'il y a une réforme du lycée professionnel en cours. Vous étiez au courant ?
Non, je suis pas du tout au courant. Je viens de l'entendre là aussi. Je suis pas dans le secteur de l'enseignement, donc je suis pas du tout au courant. Non, je peux pas vous en dire plus, je suis désolé.
En fait, on est presque forcé de venir en manifestation pour être informé.
Bah, y a tellement de choses qui se passent dans tous les secteurs d'activité que d'être au courant de tout ce qui se passe, c'est juste très très compliqué. Ça s'entend. Moi, je suis dans un secteur où il se passe des choses et je pense que les gens sont au courant. Donc oui, ça c'est important de venir dans les manifs justement pour échanger avec d'autres salariés, d'autres entreprises ou de services publics. Et ça nous permet d'être au courant de choses qui vont nous toucher dans l'avenir.
Est-ce que vous avez été témoin de précarité autour de vous ?
Évidemment, moi je travaille à Pôle emploi et la précarité c'est un peu notre quotidien de gens qui ont du mal à remplir leur frigo. Donc oui, bien sûr, je suis en plein dedans.
Concernant Pôle emploi, il y a eu la réforme justement de l'assurance chômage il y a quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, on voit ce qui se passe dans les agences, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont qui reçoivent un revenu de Pôle emploi qui est... C'est pas un revenu d'ailleurs, ce sont des allocations qui sont moindres par rapport à l'ancienne réforme d'assurance chômage. Donc ça a touché pas mal de gens et ça les met dans la précarité.
Et elle est croissante selon vous ? Elle est en augmentation ?
Ouais. Une preuve, c'est que par exemple, moi ça fait quelques années que je travaille dans le service public de l'emploi, auparavant c'était la NPE, et il était très rare il y a 20 ans de voir quelqu'un qui était à la retraite par exemple pousser la porte d'une agence locale pour venir chercher du travail. Aujourd'hui c'est monnaie courante, c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé toute leur vie ont pourtant une retraite, et bien cette retraite ne suffit pas à les faire vivre et ils sont obligés de prendre un petit boulot à côté, distribuer des prospectus par exemple, des choses comme ça. Donc oui, la précarité ça s'amplifie.
Et concernant les jeunes, ils sont touchés également ?
Oui, les jeunes sont touchés. On en voit beaucoup qui sont sans ressources. Pareil, avant il y avait une allocation d'insertion que vous touchiez au bout de 6 mois de chômage. Aujourd'hui ça n'existe plus. Donc il y a des tas de jeunes qui sont au RSA par exemple. Donc oui, ça touche aussi les jeunes. Ça touche l'ensemble de la population, des jeunes jusqu'aux retraités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette grande manifestation, parce que ça commence à suffire et il y a des gens, je vous dis, qui n'arrivent même plus à payer leurs factures. Et ça, c'est pas admissible dans un pays aussi riche que la France.
La rédac pop de Radio Campus Orléans. Radio Campus 88.3, nous terminons la deuxième partie de cette émission consacrée aux manifestations du 18 octobre à Orléans avec des témoignages d'étudiants que nous avons croisés, mais également d'étudiants que tu as croisés, Mathias, concernant la précarité. Donc c'est un sujet qui t'intéresse, toi, la précarité étudiante.
En effet, on a fait un micro-trottoir à cette manifestation du 18 octobre. Et on a croisé aussi quelques étudiants, ils n'étaient pas nombreux, mais on a réussi à en trouver quelques-uns. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que en ce moment, ça va durer tout l'hiver et même sûrement en janvier. Je fais un dossier sur la précarité étudiante. Donc si vous voulez livrer votre témoignage, vous êtes les bienvenus à la radio pour parler de précarité de façon anonyme. On fait aussi des micro-trottoirs sur le campus pour parler de précarité pendant l'hiver. Et c'est tout de suite... le témoignage d'étudiants pendant cette manifestation du 18 octobre sur la hausse des prix.
Alors, vous en pensez quoi de la manifestation qui a lieu aujourd'hui ?
Moi, honnêtement, je pense que les gens, ils ont raison. Ils ont raison quand même de se révolter. Parce que en ce moment, c'est pas... On voit tout ce qui se passe dans le pays, que ce soit l'essence et tout. Enfin, on va pas tout reciter les problèmes, mais c'est vrai que... Je comprends l'engouement de cette manifestation et je pense que c'est une bonne chose. Après, moi, je suis étudiant. Donc, par exemple, là, ça nous gêne un peu pour aller en cours. Après, je peux comprendre, vu que c'est les métiers importants, c'est justement ici qu'il faut manifester pour bien que ça gêne les gens, pour qu'on comprenne que c'est ce genre de métier qu'il faut revaloriser de d'autres.
Moi, je suis un peu d'accord avec ce monsieur qui vient de parler, parce que faut montrer qu'ils ont quelque chose à demander. Et bah pour cela, il faut bloquer certaines personnes, faut bloquer des trams et tout, pour montrer qu'on a des choses à demander.
Alors, vous êtes étudiant, est-ce que ça vous parle, la précarité étudiante? Est-ce que vous avez été témoin de personnes qui sont dans la pauvreté chez les étudiants?
Justement, c'est le gros problème chez les étudiants. C'est on le rencontre, nous, au quotidien. On voit des étudiants de notre âge. Enfin, nous, ça va, on vient d'ici. Mais il y en a qui viennent de loin. Et on a beau dire, ouais, les étudiants, ils ont des aides, des trucs, des machins, mais non. La réalité des choses sur le terrain, non.
Ils ont besoin de beaucoup plus d'aide. J'ai des amis, par exemple, qui sont logés, qui ont vraiment du mal. Ils sont obligés de travailler à côté des cours, etc. Et pour suivre les cours, des fois, ils décrochent complètement. Il faudrait beaucoup plus d'aide pour les étudiants qui viennent de loin.
C'est vrai que, pour moi, les aides mises en place pour les étudiants, elles ne sont pas suffisantes. Et comme l'a dit mon camarade, et certains étudiants ont besoin de travailler à côté des études, ce qui pourrait impacter leurs résultats à la fin de l'année, vu qu'ils n'ont pas le même temps de travail qu'un étudiant qui a les moyens.
Et alors, comment vous expliquez le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'étudiants aujourd'hui dans la manifestation?
Là, c'est vrai que c'est assez incompréhensible. C'est vrai que je trouve qu'on, nous, en tant qu'étudiants, on n'est pas assez impliqués, on n'est pas assez engagés dans ce genre de manifestation. Et il faudrait.
Est-ce que les jeunes aujourd'hui ont peur de la répression policière? On sait qu'elle a été assez violente envers les jeunes ces dernières années. Est-ce que vous pensez que c'est une raison qui dissuade les jeunes de venir manifester?
C'est possible, parce que avec ce qu'on voit maintenant sur les réseaux, etc., on voit que le mauvais côté de la police, alors qu'il y a plein de bons policiers, mais du coup qu'on voit pas sur les réseaux, etc. Il faudrait beaucoup plus se montrer, parce que maintenant, à cause des réseaux, etc., on peut avoir peur de la police, et du coup, vu que dans les manifestations, la police elle est très présente, ça peut empêcher les jeunes de venir manifester.
Oui, c'est vrai que malheureusement, sur les réseaux, mais pas vraiment sur la télé, c'est surtout sur les réseaux, on voit que les mauvais côtés de la police, alors qu'il y a des mauvais policiers, certes, mais il y a aussi des bons policiers qui font simplement leur travail et qui obéissent à leur ordre.
C'est ça. C'est vrai que la répression policière, c'est un gros problème, parce que, comme il vient de dire, normalement, la police, de base, elle est là pour nous protéger, pour notre sécurité. Et moi, je vais être honnête, hein, maintenant, ouais, quand on voit des policiers, c'est pas comme... on s'attend pas forcément à ce qu'ils nous protègent, quoi. Voilà, on n'a pas ce sentiment de sécurité, malheureusement.
Le sentiment de sécurité, il a un peu disparu avec le côté de la police. Parce que vraiment, les mauvais policiers qu'on voit souvent sur les réseaux, ils reflètent l'image de toute la police. Et du coup, ça peut donner une très très mauvaise image à la police.
Est-ce que vous pensez que la précarité étudiante, ou est-ce que vous connaissez des étudiants en galère, précaires?
À la CAF, effectivement, on les rencontre très souvent. C'est-à-dire que là, en fait, étant donné qu'on ne peut pas traiter les dossiers en temps et en heure, et on le voit que les étudiants, ce sont quand même les grands oubliés, puisqu'on parle effectivement beaucoup des allocataires, du RSA, etc. Mais on voit bien aujourd'hui des étudiants qui sont vraiment dans la galère, parce qu'ils attendent leurs allocations, parce qu'ils peuvent attendre des mois et des mois leurs aides au logement. Effectivement, les étudiants, ils sont vraiment dans de très très grosses difficultés. Ils ne sont pas non plus bénéficiaires du RSA, ils ont été aussi des grands perdants avec la réforme de l'aide au logement. Enfin voilà, les étudiants, c'est sûr qu'ils ont tout à fait raison d'être dans la rue aujourd'hui, en tout cas s'ils y sont.
Et du coup, leur nombre a augmenté, vous l'avez vu?
Oui, tout à fait. On a de plus en plus de manifestations d'étudiants qui sont dans de très très grosses difficultés, qui n'arrivent pas à se nourrir. Et oui, on le constate tous les jours sur le terrain.
La rédac pop de Radio Campus Orléans. La rédac pop de Radio Campus Orléans, c'est terminé pour aujourd'hui, mais ça ne sera jamais terminé. Donc nous lancerons par ailleurs un appel à toutes celles et ceux qui veulent témoigner de leur précarité pour justement contribuer à l'élaboration de ce dossier que Mathias est en train de constituer. Ce n'est que le début. Alors, je sais que tu as déjà fait des micro-trottoirs, hein, la semaine dernière.
Oui, on fait des micro-trottoirs avec Daniel ou j'en fais avec d'autres personnes. Et ça contribue à entendre aussi la voix des étudiants, hein, qu'ils soient précaires ou pas forcément. Hein, bien sûr, même si l'objectif, c'est aussi de parler de précarité pour voir ce que la précarité a augmenté ces derniers temps, comment ça va se passer, parce que... il va sûrement y avoir de plus en plus de manifs en ce moment, et puis avec l'hiver et le chauffage notamment, ça partait de là. Et en fait, je vais faire un dossier sur toute la précarité en général, donc intéressé par tous les témoignages que vous pourriez livrer à Radio Campus 88.3.
Merci à toi Mathias, merci donc pour tout ce travail de récolte de témoignages, de montage audio. On se retrouve bien évidemment très bientôt sur Radio Campus 88.3. Mais avant de se quitter, moi j'aimerais bien savoir, sans que tu nous livres tes orientations politiques, hein, mais à quand remonte cet intérêt que tu as quand même pour la politique ?
Bah, la politique, je pense, moi ça me touche pas mal parce que c'est... Généralement, moi, je pense que la politique, c'est lié toujours à la famille. On est toujours politisé grâce à sa famille, généralement. Et donc, du coup, moi, j'ai une famille en partie précaire, mais pas forcément complètement. C'est-à-dire que c'était à moitié précaire et à moitié dans la classe moyenne en fonction de mes parents. J'ai vu aussi un peu la galère, mais j'ai vu aussi... Les privilèges qu'on pouvait avoir dans certains métiers. Je me suis dit que quand même la précarité, c'était révoltant de ne pas pouvoir vivre décemment, en fait. Et donc, du coup, je me suis intéressé à la politique. Je me suis politisé, je me suis mis à militer. Et je suis aussi, sur le côté LGBT, je suis aussi des mouvements... là-dedans, notamment les prides qui sont faites, donc, c'est-à-dire les
marches de fierté.
Les marches de fierté, pour pas dire le mot pride. Aussi, du coup, j'ai découvert plusieurs chaînes Twitch ou podcasts féministes sur YouTube et sur Twitch, du coup, que j'écoute beaucoup. Et je me suis pas mal politisé. Donc, j'écoute Mediapart de temps en temps avec... Ouvrez les guillemets d'Usul, donc voilà, très qualitatif et assez instructif, voilà.
Donc en fait, cette politisation, elle a des origines familiales, sociales, mais tu te l'es appropriée parce que j'ai l'impression qu'elle te permet aussi de comprendre le monde dans lequel on vit et qui peut interroger celles et ceux qui ne supportent pas les injustices sociales notamment.
Oui, alors c'est très intéressant, cette question, elle peut être assez complexe. Oui, il y a aussi le côté injustice sociale. On a tous vécu des injustices durant notre enfance. L'école, ça peut ne pas être facile pour certaines personnes, notamment le collège et puis surtout le lycée pour d'autres. Et puis, il y a aussi... tu parlais des injustices. Ah, je sais plus.
Alors oui, c'est vrai, j'ai parlé des injustices sociales, mais aussi des injustices, j'allais dire, de traitement dont sont victimes beaucoup de personnes issues de la communauté LGBT, par exemple.
Oui, il y a notamment ça. Bon, moi, mon coming out s'est fait, ma découverte s'est fait assez tard, mais il y a notamment ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être révoltantes. Et aussi, je trouve que militer, c'est aussi un moyen, en fait, de bien se sentir, en fait, parce que c'est comme à Radio Campus, en fait, tout à fait, on fait des rencontres et ça nous permet de sortir un peu de notre quotidien, voilà.
Oui, et puis de notre crâne, enfin, personnellement.
Oui, tout à fait.
Oui, voilà, de se confronter à la pensée de d'autres crânes.
Et puis aussi, oui, là où je voulais en venir, c'est que la politique... pourquoi c'est important pour moi ? Parce que au lycée à Voltaire, j'ai pris des spécialités avec la nouvelle réforme. Maintenant, c'est plus littéraire ou scientifique, c'est des spécialités qu'on choisit. Et j'ai pris géopolitique, et c'est parce que l'histoire géo, ça a toujours été une matière qui m'a beaucoup plu. Et la géopolitique, c'est vraiment, vraiment beaucoup de politique sur le bas de la géographie, du coup. Et, Et c'est une super matière parce qu'elle parle beaucoup des conflits mondiaux, des guerres. Et en fait, on comprend beaucoup avec... on comprend beaucoup plus le monde. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment une matière vraiment utile humainement parlant, en fait. Et on apprend beaucoup plus sur le monde, quoi.
Merci à toi, Mathias, pour ton témoignage. Et à très bientôt sur Radio Campus Orléans 88.3, mais également sur la Redac Pop.
On me retrouvera sûrement sur des turbulences que je fais de temps en temps. Et donc, du coup, bah, je vous souhaite bonne journée sur Radio Campus.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Sensational sounds of the man they call Mr. Ben Ross.